Bonjour, ici Daniel Langlois pour le balado Faire le bien, un balado qui sert à découvrir des organismes et les responsables qui y travaillent pour venir en aide à des gens en difficulté. Le balado Faire le bien est commandité par la plateforme Simplique. Simplique fait deux choses principalement. En premier lieu, c'est une plateforme en ligne qui permet de mettre en lien des gens qui veulent faire du bénévolat avec des organismes qui recherchent des bénévoles. Donc, si vous êtes intéressé à donner de votre temps, vous vous rendez sur le site web de Simplique, simplique.io, S-I-M-P-L-Y-K.io, et vous aurez accès à une carte interactive qui permet de voir facilement qu'est-ce qui s'offre près de chez vous comme possibilité de bénévolat. Deuxièmement, Simplique a trouvé une solution qui permet aux organismes qui reçoivent des dons sur leur site web ou qui vendent des billets pour des activités de levée de fonds de ne pas payer 3% de frais aux grandes organisations comme PayPal, par exemple, et donc de conserver 100% des sommes reçues. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter, encore une fois, le site simplique.io. Aujourd'hui, je rencontre M. Daniel Lanteigne, qui est directeur général de la Fondation REA à Montréal. Daniel Lanteigne, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au podcast Faire le bien.
Merci, très heureux.
Écoute, très heureux de te rencontrer également ce matin pour qu'on puisse parler de la Fondation REA. Et puis, dans un premier temps, j'aime quand même qu'on parle un peu de la personne qui est devant moi. En fait, j'aimerais savoir, Daniel Lanteigne, il arrive de où? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé ici un jour?
Ouais, ben c'est une succession d'hasards, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie qui font en sorte que je suis aujourd'hui à la Fondation REA. J'arrive d'un passé dans le secteur privé. J'ai travaillé 7-8 ans à la Banque nationale. Donc, vraiment rien qui me prédisposait, on peut dire, à arriver dans le secteur des organismes à but non lucratif. Mais à la Banque nationale, mon dernier poste était à l'équipe des dons et commandites. Donc, on se rapproche tranquillement pas vite au cours de mon parcours de ce secteur-là. Mon travail m'a amené à travailler avec les organismes communautaires, avec les différentes fondations du Québec. Et c'est là qu'on a commencé à m'approcher pour me demander si je voulais faire le saut, finalement, de quitter le secteur privé, de m'en aller dans le secteur philanthropique. Et c'est flatteur, c'est intéressant, mais quand on fait le jeu des colonnes, je voyais beaucoup d'opportunités qui disparaissaient en quittant le secteur privé, et beaucoup d'avantages, ne serait-ce qu'un régime de pension, un régime d'acquisition d'actions. On retrouve pas vraiment ça dans le secteur caritatif, mais ça a semé quelque chose, ça a semé une longue réflexion. Et cette réflexion-là m'a amené ultimement à faire le saut, parce qu'aujourd'hui, bon, je suis directeur général de la Fondation REA. Mais avant ça, j'ai fait le saut à l'Association des amputés de guerre du Canada. Pourquoi j'ai fait le saut à ce moment-là et pourquoi cette fondation-là au départ, pour mon premier réel poste dans le secteur communautaire philanthropique, c'est que l'Association des amputés de guerre, ben, je les connais depuis que je suis tout petit. Moi, à l'âge de 4 ans, j'ai perdu une partie de mon pied. À l'âge de 15 ans, j'ai dû être amputé au niveau de la jambe. Donc, les amputés de guerre font partie de ma vie depuis que je suis tout petit.
Ah, ouais, okay.
Ce qui fait en sorte que pour moi, c'était de faire du bungee du secteur privé dans le secteur philanthropique, mais avec un très, très bon filet de sécurité, d'arriver dans une organisation que je connais qui me passionnait et qui me passionne encore. Les amputés de guerre, okay. Ça restera tatoué sur mon cœur. C'est eux qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui d'avoir des prothèses de qualité puis de me déplacer dans la vie de tous les jours puis d'avoir une mobilité là, presque parfaite. Et ultimement, ben après ça, Fondation REA est apparue dans ma vie. Puis pourquoi je suis ici aujourd'hui, où est-ce qu'on enregistre le balado, ça se passe directement dans nos bureaux. C'est qu'ici, quand j'avais 16 ans, c'est ici que j'ai fait ma réadaptation, quand j'ai dû être réamputé sous le genou, finalement.
Pas vrai, ici
même, dans cet établissement-là. Donc, quand j'ai vu passer l'opportunité, pour moi, ça allait de soi. Je vois encore ma prothésiste qui est ici, mon physiatre, toute l'équipe de réadaptation, le physio, ergo, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, tout ça. Ce sont des gens que je côtoie et que j'ai côtoyés il y a plus d'une quinzaine d'années quand j'étais venu ici.
Okay.
Donc, comme je dis, c'est beaucoup d'hasards qui m'ont mené en philanthropie, mais en même temps, c'est pas si hasardeux que ça, parce que tout est lié ultimement à mon histoire très personnelle. Donc, la Fondation REA, puis pour bien camper, le REA, c'est les trois premières lettres du mot réadaptation. Donc, ça allait de soi de venir ici, ultimement. Donc,
et qu'est-ce que ça fait, justement? On arrive à la Fondation REA. C'est quoi la mission de la Fondation? Qu'est-ce que vous faites?
Donc, la Fondation REA, elle est quand même jeune. C'est un nom qui existe depuis 3 ans seulement.
Okay.
Par contre, c'est une fondation issue de différentes fusions et différents regroupements qui remontent dans les années 70. La Fondation REA, ultimement, c'est la fusion de 3 fondations. La Fondation de l'Institut Raymond Devoir en surdité et communication. La Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Et la fondation de l'Institut de réadaptation Jean-Grelinzi de Montréal, où on est en ce moment.
Okay.
Donc, ce sont 3 établissements sur-spécialisés en réadaptation physique dans l'île de Montréal. Ces 3 établissements-là avaient chacun leur fondation. Ils ont été regroupés quand le ministre Barrette, à l'époque, avait revu le système de santé. Il a créé des CIUS, des CIUS. Donc, ces 3 établissements-là sont arrivés dans le même CIUS, celui du Centre-Sud.
Okay.
Et c'est là qu'est né l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. On commence à avoir beaucoup de mots pour parler de réadaptation. Donc, nous, on est allé complètement à l'opposition. On dit, on va juste s'appeler REA, tout simplement.
Okay.
Parce que REA est présent dès le début de la réadaptation. Ultimement, notre mission puis notre quotidien, c'est quoi? Ben, on est une fondation d'établissement à la base. Ce que ça veut dire, c'est que l'établissement arrive avec des besoins qui peuvent pas être inclus dans les budgets de l'État. Et nous, notre travail est d'aller chercher le financement nécessaire pour réaliser ces besoins-là. Donc, on fait du financement par différentes mesures, finalement. Donc, on répond à des besoins d'établissement. Également, ce qu'on a décidé d'ajouter, c'est de répondre directement aux besoins des usagers. On réalise que les personnes handicapées arrivent souvent dans une situation de vulnérabilité financière lorsqu'ils sont en réadaptation. Ce sont des gens qui ont perdu parfois leur travail à la suite de leur amputation, à la suite de leur AVC, traumatisme crânio-cérébral. Donc, évidemment, il y a une perte de revenus à ce moment-là. Et on réalise que des gens, des fois, n'ont pas nécessairement les moyens d'aller acheter une deuxième pile pour un appareil auditif qui serait pas couvert par la régie de l'assurance maladie, ou n'ont pas les moyens, des fois, juste de rentrer chez eux en transport adapté la fin de semaine lorsqu'ils sont plus hébergés dans le centre. Donc, on répond aussi à ces besoins de base-là pour contribuer à leur inclusion et leur participation sociale. Donc, la Fondation REA, en gros, c'est vraiment des besoins de formation, technologie, développement, appareillage, sur-spécialisation de nos professionnels.
De l'établissement.
De l'établissement. Et également de l'aide directe aux usagers. Et là, on est en train, ça va être lancé très rapidement, on est en train de créer également un programme de bourse de la Fondation REA pour permettre aux personnes handicapées d'accéder finalement aux études. Et ce, dans toutes les sphères des études possibles, parce qu'on réalise finalement qu'à chaque fois quelqu'un en situation de handicap veut réussir dans la vie, ça prend un diplôme. Et ce sont des gens qui ont souvent moins de diplômes. Ce sont des gens qui accèdent moins facilement au milieu du travail. Donc, on se dit concrètement, on veut changer la vie d'individus un par un avec un programme de bourse qui va leur permettre d'accéder aux études ultimement. Et ça, à différents niveaux, on vise pas nécessairement du deuxième cycle à l'université, ça peut être un DEP,
okay.
Ça peut être la formation aux adultes, ça peut être collégial, technique, professionnel. Donc, vraiment, on ratisse très large pour juste dire, écoutez, on veut vous aider à vous outiller dans la vie puis que le côté financier de l'accès aux études ne devienne pas un frein. Ultimement, ce seront des gens qui seront un peu plus inclus dans la société.
Donc, la fondation, principalement, c'est pour recueillir des sous,
oui.
De ce que je comprends davantage. Et dans le fond, si on revient un peu à l'aide aux usagers directement, qu'est-ce que c'est les besoins qu'on retrouve fréquemment des usagers pour lesquels ils vont avoir besoin de sous?
On a des demandes tellement diverses. On a eu des demandes de gens qui avaient besoin, disons, d'une laveuse à la maison parce qu'avant, ils étaient capables de marcher et de se rendre dans un laundromat. Mais là, ultimement, ils sont rendus amputés des deux jambes, par exemple. Ils peuvent plus se déplacer. C'est plus sécuritaire pour eux. Et ça reste un besoin d'hygiène à combler que d'avoir des vêtements propres. On a des besoins d'hygiène de base, des gens qui ont besoin d'avoir un minimum de vêtements puis de souliers. Donc, on répond vraiment à la pyramide de Maslow. Là, on est au début de tout ça. Puis, ultimement, des fois, ce sont des gens qu'on veut, qui ont fini leur adaptation chez nous, mais on veut les garder actifs. Ils ont besoin de continuer à s'entraîner ou à faire de l'activité physique. On va aller payer, par exemple, des abonnements, des gyms adaptés. Je pense au gym Viomax, qui est un environnement complètement adapté dans un de nos centres. Donc, les personnes à mobilité réduite peuvent continuer de s'entraîner. Donc, on va contribuer finalement à leur maintien d'un niveau de condition de vie, de santé et d'activité sportive. Ça ratisse très large tout ce qu'on va aller offrir, là, vraiment. Et c'est vraiment étudié à la pièce. Ça arrive beaucoup directement des intervenants, des travailleurs sociaux qui sont déjà très en lien qu'on a dans nos différentes équipes. Donc, c'est eux qui capent les besoins.
OK, c'est pas nécessairement l'usager qui va se présenter à la fondation, qui va dire, moi, je vais remplir un formulaire.
Intervenants qui, eux, évidemment, voient dans le quotidien c'est quoi les besoins, voient également les ressources financières qui sont limitées. Et c'est à ce moment-là qu'eux viennent cogner à notre porte. Là, c'est un formulaire de 4 lignes à remplir. On n'a jamais voulu rendre ça compliqué.
Okay.
Et très rapidement, on va aller mettre un chèque à ce moment-là. Et ça, ce qui est merveilleux, c'est que c'est autofinancé. On appelle ça le fonds de dépannage, nous, à la fondation. C'est autofinancé parce qu'on a une boutique dans un de nos établissements, une boutique cadeau là, qui sert autant aux visiteurs, aux employés, à tout le monde finalement. Cette boutique-là, elle appartient à la Fondation REA, mais ce sont des bénévoles qui sont là-dedans tous les jours. Et les profits qui sont générés de cette boutique-là permettent de financer. Donc, les gens, lorsqu'ils vont acheter là, ils répondent à un besoin d'acheter quelque chose. Et deuxièmement, la totalité des profits, puisqu'on n'a pas de dépenses, c'est des bénévoles qui sont là, la totalité des profits vient financer le fonds de dépannage. Donc, les gens font aussi un deuxième bon geste en permettant finalement de répondre aux besoins, aux besoins de base des usagers.
Et combien de personnes vont être aidées dans une année, on va dire dans la dernière année,
par année, là, ça va osciller, je vous dirais, là, à peu près jusqu'à une centaine d'individus. On vise toujours on vise pas nécessairement d'en avoir plus ou d'en avoir moins, on veut juste répondre à l'ensemble des besoins qui sont présentés. On a vraiment mis ça en place, ça fait 2 ans seulement. C'est une pratique qui existait dans d'anciennes fondations avant la fusion. On a réalisé que c'est beau qu'on ait une mission de base d'être une fondation d'établissement, mais concrètement, comment on peut aider puis changer les vies une par une? Et là, on n'est pas dans de la masse, on ne dit pas qu'on vient aider la population des personnes handicapées à l'ensemble de la province, mais c'est vraiment des vies une par une qu'on aide financièrement. Puis ça peut au moins donner un coup de pouce, tant mieux pour nous, c'est mission accomplie à ce moment-là.
Mais est-ce que vous réussissez à répondre à
toutes les demandes, au sens où s'il y a 100 formulaires qui ont été complétés cette année, les 100 ont été répondus, ou il y a une liste d'attente et puis on n'est pas capable actuellement de répondre à tout?
On a mis un système là, tellement agile que des fois on reçoit la demande dans la même journée, elle est approuvée par l'établissement, elle est approuvée par nous, et le chèque peut être émis dans la même journée si on a déjà la preuve de paiement, la facture là, qui nous permet d'émettre le chèque. C'est hyper rapide. On a répondu à l'ensemble des demandes généralement en dedans de 24 heures. Parce qu'on sait que c'est des gens qui sont en situation économique, financière, précaire. On veut pas rajouter des délais. Et donc, on le fait très rapidement. On a refusé aucune demande depuis que ça fait 2 ans que ça existe. Il y en a qu'on s'est demandé, est-ce que vraiment ça fait partie de notre mission, puis c'est vraiment d'ouvrir nos œillères, puis de comprendre que finalement, tu sais, notre point de base, c'est de dire, est-ce que ça aide à la participation et à l'inclusion sociale de cette personne-là, ou de poursuivre sa réadaptation de manière autonome. Donc, c'est vraiment ça notre point de base, et puis les intervenants sont très sensibilisés, et pour eux, c'est un bel outil, parce que des fois, ils voudraient les aider à continuer leur réadaptation, à continuer de maintenir ce qu'ils ont appris en réadaptation, donc des bonnes habitudes de vie, d'alimentation, tout ça. Mais ça demande des outils financiers et ça, c'était pas quelque chose qu'ils avaient dans leur poche. Maintenant, ils ont cette carte-là dans leur poche, ils peuvent sortir et dire, ben, on a le fonds de dépannage de la Fondation.
Mais est-ce qu'il y a une limite si un usager a besoin de sous? Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est...
Ouais, ben, il y a différents paramètres financiers. On a vraiment revu, hein, d'ailleurs, c'est tout chaud, là, on l'a revu il y a quelques semaines seulement, les différents paramètres. On s'était mis une enveloppe annuelle dans laquelle on navigue. Et à date, on n'a pas réussi à atteindre complètement cette enveloppe-là. Est-ce que c'est un souhait de l'atteindre? Peut-être. Mais donc, on navigue dans un océan où il y a de l'argent qui est disponible, justement grâce à la boutique de la Fondation. Et nous, ben, si on a à vider complètement l'enveloppe financière annuelle, on va être bien content de le faire. Mais comme je disais, à date, on n'a pas eu besoin de refuser, on n'a pas eu besoin de diminuer le montant à faire. On répond vraiment à la demande, là, et ça se passe hyper bien.
Et dans le fond, dans les projets futurs, bon, il y a les bourses que, aux études là, qui vont être développées ou qui sont déjà en cours?
Le programme est en cours. Okay. Pas en cours, excusez-moi. Le programme est conçu, finalisé. On a maintenant eu l'appui de différents bailleurs de fonds. Là, ce qui reste, ça va être de le déployer puis de faire un calendrier pour l'appel des projets de bourse, finalement, pour l'année scolaire prochaine. Donc, il reste juste à le rendre live, on pourrait dire, là, mettre ça en œuvre puis accessible pour recevoir les bourses, évaluer avec un comité de sélection, puis après ça, octroyer les bourses et suivre le parcours de ces différents étudiants-là. Parce que un peu sur la base du fonds de dépannage, on vise à changer les vies une par une et on veut connaître ces gens-là, on veut savoir ben, comment ça va les avoir aidés finalement, puis de mesurer est-ce que le programme de bourse, ultimement, au bout d'un an, 2 ans, est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Donc, il faudra se poser les questions à ce moment-là.
Et toi, de ton côté, Daniel, qu'est-ce que tu fais dans une journée? Qu'est-ce que c'est tes responsabilités dans l'organisme?
Donc, la Fondation RIA, c'est une petite fondation, là. On est 2 employés. On adjointe moi. Une chance qu'on a l'appui de nombreux bénévoles qui nous permettent de faire l'ensemble.
Combien de bénévoles?
On a un conseil d'administration, donc ça, déjà, c'est la base d'une douzaine de bénévoles.
Okay.
À la boutique, on a à peu près, je dirais, là, en près de 10 bénévoles qui sont des bénévoles de l'établissement, là, du CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. On en a durant nos événements, que ce soit des événements collectes de fonds, des événements un peu plus cocktails, gala. Donc, puis on a des gens qui viennent nous aider de façon sporadique, des fois pour des tâches administratives, pour faire des envois postaux, pour faire de l'affichage. Donc, on a vraiment accès à un bassin de bénévoles très riche. Et c'est ce qui nous permet de continuer d'opérer cette fondation-là, c'est que, évidemment, on a des gens de cœur qui viennent nous donner du temps parce que mon adjointe, moi, il y a une limite de ce qu'on peut faire dans une semaine. Puis mon quotidien est jamais le même. Aujourd'hui, ben, je vous rencontre. Ça fait partie de mon travail aussi de permettre le rayonnement puis travailler sur la notoriété. Le nom Réa résonne pas encore des milliers de cloches là à travers le Québec. Donc, faut travailler à faire construire, connaître. Non, pas seulement la fondation, mais aussi c'est quoi la réadaptation. Parce que les gens qui connaissent la réadaptation physique, c'est malheureusement parce que ça l'est arrivé à eux ou à leurs proches. Sinon, les gens ont pas vraiment une perception de c'est quoi. Ils savent pas qui est-ce qui est venu dans nos bureaux ou dans nos installations. Mais dès que je commence à dire, ben, Lucien Bouchard, quand il a perdu sa jambe, Penelope McQuaid, quand il a eu son accident, Isabelle Richer, la journaliste de RDI, quand il a eu son accident, ce sont des gens qui sont venus ici, chez nous, en réadaptation. La clientèle sourde, malentendante, les personnes qui parlent la langue des signes québécoises sont des gens qui viennent aussi dans nos établissements. Là, ça commence à mettre des visages puis à expliquer ça peut être quoi la réadaptation. Donc, ça prend des visages, ça prend du travail de notoriété. Donc, ça, c'est une bonne partie de mon travail de contribuer à ça. Donc, partie de mon travail, ben, c'est d'aller rencontrer des donateurs existants, potentiels. Mon travail, c'est pas réducteur comme de la vente, ou c'est pas juste de la vente, mais c'est de trouver des jumelages, de dire, ben moi, j'ai des opportunités de financement, puis de trouver un donateur qui est intéressé par ces opportunités-là. C'est un travail de longue haleine. Il faut, on est un peu des entremetteurs. On est comme le Tinder de la philanthropie, où on essaie de faire un match qui fonctionne bien. Ça, c'est une grande partie de mon travail. Évidemment, de développer ces relations-là, d'amener les donateurs à faire jusqu'au don ultime, qui est le don testamentaire, lorsqu'ils ont une histoire d'amour. Il faut dire qu'une bonne partie de nos donateurs, ce sont des gens qui sont venus ici en réadaptation et qui, ultimement, après ça, sont retournés à la vie active.
Il y a une bonne partie.
Il y a une bonne partie, un attachement qui est clair avec l'établissement. Et comme à chaque fois, si vous allez vous faire opérer dans un hôpital, quelques semaines plus tard, vous allez recevoir une note de la Fondation, ben c'est le même principe. Les gens qui sont venus ici, qui ont eu un service à l'externe ou qui ont été admis dans nos centres, ben, ils reçoivent une note de la Fondation. Puis on leur demande. On ne leur demande pas juste de faire un don. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on leur dit, ben écoutez, vous pouvez faire un don, mais on veut surtout savoir s'il y a quelqu'un qui a fait de la différence dans votre réadaptation, puis on va aller le reconnaître, cet employé-là. Donc, on a mis en place ce programme Gens d'exception. Wow. Donc ça fait partie de mon quotidien, de la gestion de ces différents programmes de Gens d'exception. Okay. Bon, le programme de bourse qui s'en vient. Nos différents événements dans l'année. Là, en avril, on a la dégustation des vins de Californie. On va avoir le défi caritatif Banque Scotia. Donc, différents événements qui se placent et ça demande beaucoup de temps, de l'accompagnement.
Organiser ces événements-là.
Exactement. Puis de la gestion d'opérations, de la gestion administrative, de, ben, tu sais, rendre des comptes, des factures, payer l'établissement.
Quand même, c'est pas rien.
Il y a beaucoup de gestion politique, de la gestion organisationnelle, de partenariat. Un DG a beaucoup de chapeaux à porter et ça fait en sorte que mon quotidien est jamais le même, finalement, dépendamment de ce qui se présente.
Et justement, seulement deux personnes pour faire ça, je pense que, comme tu disais tantôt, ça prend une bonne équipe de bénévoles. Et je veux revenir à ce qu'on a mentionné concernant le séjour des gens ici en réadaptation. En général, combien de temps une personne va rester?
Ça, c'est la question à 100$. On a beaucoup de clientèles qui sont admises ici, donc des problèmes de santé physique, clientèle amputée, clientèle avec une blessure orthopédique grave, personnes qui sont devenues tétraplégiques, paraplégiques, donc une blessure à la moelle épinière, personnes ayant eu un AVC également, ou un traumatisme crânio-cérébral. Donc ça, c'est vraiment l'essence des gens qui sont admis, qui sont hospitalisés ici. Donc, ils sortent généralement de leur hôpital où ils ont été traités rapidement. Tout a été stabilisé et arrive ici dans ce qu'on peut appeler un bootcamp de la réadaptation, donc vraiment un entraînement intensif de physio, ergo, travail psychologique aussi, travail social, tout ça. Et les gens, ben pour répondre finalement à la question, parce que je m'éloigne, ben les gens peuvent rester ici des fois quelques semaines, ça peut être quelques mois. Il y a différents programmes, on essaie de les retourner plus rapidement dans leur milieu de vie. Pas pour s'en débarrasser, mais parce qu'on réalise que finalement, lorsqu'ils sont dans leur milieu de vie, lorsqu'ils sont retournés chez eux, finalement, ouais, ces gens-là, ben ils sont dans leur réel environnement ici. Ici, tout est sécuritaire, tout est mesuré, tout est calibré, mais chez eux, ça ne l'est pas. Donc, plus tôt on les retourne chez eux, plus tôt, finalement, la réadaptation est de plus en plus adaptée. Donc, c'est les intervenants qui vont parfois se déplacer où il se fait du relais avec les intervenants locaux parce que l'institut universitaire qu'on soutient financièrement a un mandat qui parfois peut être jusqu'à un mandat provincial. On a des gens de partout au Québec qui viennent chez nous. Donc, il y a des interventions qui se font à distance aussi avec de la téléréadaptation, des interventions ou des gens qui viennent de partout dans la province. On est deux instituts universitaires au Québec et on en couvre des besoins, là, vraiment, autant en motricité, en sensoriel, langage. Il y a une belle expertise. On est fiers, nous, comme fondation, de soutenir cette expertise-là. Mais effectivement, ça, c'est beaucoup de besoins. Et avec une population vieillissante, bien, on réalise les besoins sont là encore pour un bon bout de temps. C'est clair.
Ici, depuis 3 ans, vous avez vu que les besoins augmentent à chaque année.
Je suis pas capable de chiffrer l'augmentation, mais je suis capable de chiffrer qu'avec le portrait de la population qui est ici,
ouais,
on réalise clairement, on est principalement dans une clientèle vieillissante. Les différents ennuis de santé, puis je prends l'exemple, moi je suis amputé de la jambe droite, quand j'ai fait ma réadaptation, les autres personnes qui étaient aussi en réadaptation pour leur amputation, c'était principalement des gens diabétiques qui malheureusement n'ont pas géré efficacement le diabète jusqu'à un certain point où il est apparu une plaie du pied. Puis la plaie du pied s'est transformée en amputation. Et donc, ça fait partie de la réalité de dire, ben effectivement, tu sais, à partir d'un certain âge, le diabète a d'autres impacts sur la santé. Ça peut mener à l'amputation. Donc, on en voit encore beaucoup de ces clientèles-là. Et ben il y a aussi, bon, tous les aléas de la vie qui n'a pas d'âge. Une blessure médulaire, ça se calcule pas, puis c'est pas en lien avec l'âge. Mais quand ça arrive. Puis par chance, ben il y a toute l'expertise ici, là.
Et j'imagine que, justement, aider cette clientèle-là jour après jour, semaine après semaine, c'est très valorisant. J'imagine que vous deux, parce que vous êtes deux dans l'équipe à temps plein, ça doit être très valorisant, encore une fois.
Oui, vraiment. T'sais, nos locaux sont très centraux. On est vraiment à côté de la cafétéria. Donc, on est dans une ère de vie réelle. On voit les usagers lorsqu'ils arrivent ici. On les voit cheminer dans leur adaptation. On les voit dans différents contextes. Là, des fois, même à la boutique, c'est là qu'ils c'est des liens. On a nos usagers plus abonnés, disons, qui viennent nous voir. Donc, c'est là qu'on voit l'évolution de ces gens-là. Puis ça nous rend témoin de façon très concrète de notre impact auprès de ces gens-là, de dire, ben écoutez, on a financé tel projet, ben là, on le voit vraiment que ça change la vie des gens. On a pas besoin d'un tableau de bord, on n'a pas besoin d'indicateur, on a juste besoin d'ouvrir nos yeux à tous les jours. Et là, on a notre mesure d'impact.
Est-ce qu'il y a un cas en particulier qui t'a marqué, toi, quand tu as vu le changement que la Fondation a réussi à faire pour telle personne? Je sais pas, est-ce qu'il y a des fois... Il y a un exemple qui te vient en tête qui pourrait être plus marquant qu'un autre?
Il existe une très, très belle spécialité ici à l'Institut qui est la clinique de rééducation vestibulaire. Ça ne veut pas dire grand-chose à tout le monde quand on ne connaît pas ça, parce que le mot vestibulaire, on va le traduire « trouble du vertige ». Il arrive pour plusieurs personnes, on parle d'un débalancement des fois de l'oreille interne ou des choses comme ça qui résonnent quelque chose davantage. C'est une clinique qui existait et qui existe encore heureusement ici. C'est une clinique qui n'était pas couverte à l'époque là, par le ministère de la Santé. C'est la Fondation qui a dû injecter des sommes pour la survie de cette expertise-là. Une expertise qui est maintenant couverte par l'établissement de santé et qui n'est pas à payer parce qu'elle existe au privé, mais elle n'existait pas au public. Et à chaque année... Je vous parlais du programme Gens d'exception où on peut reconnaître des intervenants qui ont fait la différence. À chaque année, on a le physiothérapeute là, qui est principalement en charge de cette clinique-là. Il doit recevoir à peu près une dizaine de lettres de reconnaissance de patients et de patientes pour qui cet homme-là, qui est un égo de boule pour pas le nommer, a fait toute la différence dans leur vie. Ce sont des gens qui avaient toujours des vertiges, toujours peur de tomber, des étourdissements. Et à force de travail, de technologie qu'on a acquise, de la survie de la clinique, on réalise qu'on a changé la vie de centaines et de centaines de personnes. Et ces gens-là sont extrêmement reconnaissants envers la Fondation, mais également envers les spécialistes de cette clinique-là.
Wow! Parlant de cas concrets, est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont aussi extraordinaires dans l'équipe? C'est-à-dire des gens qui, en fait, peut-être même une personne qui serait un super bénévole. Il y en a peut-être plus qu'une, mais est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de ce qu'une personne ici fait en particulier?
Oui, on est super chanceux d'avoir différents bénévoles. Fait qu'autant on a du bénévolat de ce que j'appelle se mettre les deux mains dedans. On a du bénévolat d'expertise, puis on a du bénévolat de gouvernance avec notre conseil d'administration.
D'accord.
Nous, on a rencontré très rapidement les bénévoles qui étaient dans l'établissement avant même la création de la Fondation. Et j'ai en tête ce monsieur-là, René, qui, lui, son travail de bénévole, entre autres, parce qu'il fait différents tâches, fait de l'accompagnement dans les hôpitaux, tout ça avec les patients, il s'occupe de la récupération des canettes. Et tu sais, ça a l'air futile comme ça de se dire que c'est un monsieur qui met les canettes, met ça dans le sac, puis quelqu'un vient les chercher. Mais sérieusement, pour l'avoir vu travailler, on n'a pas idée de ce que les gens peuvent mettre d'une boîte de canettes. Hein. Dieu sait qu'ils se ramassent beaucoup de choses, sauf déjà à base avec le fond de liqueur qu'il y a dedans, c'est pas chic. Mais cet homme-là, à chaque semaine, met ses gants et attaque chacune des boîtes des canettes. Et il fait ce travail-là de façon là, assez dure, religieuse. Il vient nous voir là, s'il n'y a plus de sac de récupération, puis si les canettes traînent. C'est un travail fantastique que fait cet homme-là. Il fait ça depuis des années. Et sérieusement, si un jour il veut plus le faire, il y a personne qui va se lever la main pour dire « je vais aller mettre les deux mains là-dedans ». Et bonhomme, madame, c'est quand même quelques centaines de dollars qui arrivent et qui nous permettent de financer différents trucs pour les usagers. Mais pour moi, ça c'est de l'investissement de cœur puis de deux mains dedans parce qu'il pourrait juste faire de l'accompagnement des usagers lorsqu'ils ont des rendez-vous médicaux ou il fait des pochettes d'accueil, il fait différentes tâches administratives. Mais vraiment, quand je l'ai vu se mettre les deux mains dans les canettes, là, j'ai fait « wow ». Ça, c'est du bénévolat pur et dur. Là. Puis évidemment, ben, je pourrais penser à tous les bénévoles de la boutique qui, à chaque semaine, reviennent. Ils sont là pour faire le pont entre les besoins de la boutique, ce que la Fondation peut apporter, puis comment on peut utilement aider les gens avec les profits qui sont dégagés. On a vraiment un appui extrêmement précieux puis riche là, pour la Fondation en termes de bénévolat.
Et si je suis quelqu'un qui écoute et qui me dit « Écoute, moi aussi, je veux donner de mon temps à cet organisme-là, qu'est-ce qu'on va me faire faire? » On en a une idée avec ce que tu as mentionné, mais quand même, qu'est-ce qu'on va me faire faire et qu'est-ce qu'il me faudrait comme profil idéalement pouvoir aider?
Toutes les canettes, là. Ouais. Disons qu'on met ça de côté. On a vraiment différentes opportunités de bénévolat selon ce que la personne a envie et a le temps d'offrir.
OK.
On a parlé tantôt de la portion financière. Donc ça, c'est une chose. On recherche évidemment de l'argent, mais on recherche aussi du temps et du talent. Le temps peut se passer durant nos événements bénéfices. On a toujours besoin d'aide à la différente coordination, aux tâches administratives dans notre fondation. Puis on a également, pour la clientèle de, on a ratissé large, on a créé un comité des jeunes ambassadeurs, donc 45 ans et moins, là, on a le jeune large dans la fondation. Donc les gens de 45 ans et moins qui ont peut-être pas le goût justement de se mettre les deux mains dedans, mais ont un réseau, veulent s'engager, veulent redonner à la communauté. Donc il existe le comité des jeunes ambassadeurs. Donc ces jeunes-là finalement s'investissent, ils font une activité bénéfice pour la fondation chaque année avec leur propre réseau personnel. C'est vraiment eux qui prennent cet événement-là d'eux-mêmes, trouvent le lieu, trouvent le concept, invitent leur réseau et ça génère évidemment des revenus pour la fondation. Mais donc c'est une belle opportunité, puis c'est aussi une opportunité de faire ses débuts en termes de gouvernance, parce que c'est un comité de relève ultimement, donc il y a des gens qui sont sur ce comité-là qui pourront accéder éventuellement au conseil d'administration de la Fondation Réa. C'est une belle porte d'entrée en termes d'implication communautaire, sociale.
Est-ce qu'il y a des événements de levée de fonds qui s'en viennent prochainement auxquels une personne qui écoute pourrait contribuer?
Oui, donc d'ici la fin de l'année, ben là, on est vraiment dans la fin de ce qu'on fait. On a notre campagne postale qui est partie dernièrement. À chaque, donc deux fois par année, généralement, on envoie l'histoire d'un usager qui est passé par la réadaptation. Cette année, c'est Evan, un petit garçon qui, au bout de quelques semaines seulement, a été diagnostiqué surdité profonde aux deux oreilles. Donc aujourd'hui, il porte deux implants cochléaires. Il est suivi encore à l'Institut Raymond Devoir et ils font un travail exceptionnel avec eux. Pour comprendre que la chirurgie, c'est une chose, mais après ça, il faut paramétrer de façon récurrente les implants pour être sûr que la calibration soit toujours bonne, pour que les sons soient bien captés par cet enfant-là et par tous les porteurs d'implants cochléaires. Donc ça, c'est une expertise qu'il y a ici pour tout l'Ouest du Québec. Donc on raconte cette histoire-là. Donc ça, c'est l'activité bénéfice qui est en cours. C'est vraiment notre campagne annuelle juste avant les fêtes. Et là, j'en ai parlé tantôt brièvement, mais au mois d'avril, le 8 avril, c'est la dégustation des vins de Californie. Donc un grand événement où beaucoup de producteurs de vins de la Californie viennent à Montréal, permettre aux gens de déguster leurs produits. C'est un événement bénéfice qu'on collabore pour la première fois à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. C'était l'organisme récipiendaire depuis plus de 25 ans. Et là, cette année, autant les producteurs que la Fondation des maladies du cœur ont fait « on va vous accueillir » parce que nous aussi, on soit une clientèle qui a eu un AVC. On soit les survivants, finalement, de l'AVC. Donc, il y avait un partenariat qui faisait du sens avec eux. Et un de nos grands événements aussi, c'est qui nous appartient pas, mais c'est le défi caritatif Banque Scotia. Donc, ce sont les 1 km pour enfants, 5 km, 10 km et 21 km sur le parc Jean-Drapeau, finalement, à l'île Sainte-Hélène, qui a lieu le 25 et le 26 avril prochain. Donc, les gens sont invités à aller courir, évidemment, comme tout bon coureur qui s'inscrit à un semi-marathon ou à différentes courses. Mais en même temps, ils sont invités à soutenir la Fondation Réa en se créant un genre de thermomètre de campagne, donc en invitant les amis, les proches à soutenir leur course. Et là, ben 100% de ces dons-là sont versés directement à la Fondation Réa. Donc, non seulement les gens vont courir parce qu'ils ont un objectif personnel de se dépasser, de se maintenir en forme, ou ça fait partie des bonnes résolutions de la nouvelle année, peu importe, mais ils peuvent également donner un caractère philanthropique en disant, ben je vais peut-être faire un don personnel, mais je vais aussi solliciter mon réseau. Et c'est ce qui fonctionne très bien. On parle des campagnes par les pairs, le peer-to-peer. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça revient à la technique de quand on était petit, qu'on vendait des palettes de chocolat. Bon, il y allait avec soit nos réseaux, notre famille, tout ça. Ben là, on est juste à plus grande échelle lorsqu'on est rendu avec des réseaux professionnels et sociaux là, un peu plus construits là.
Donc, si on veut soutenir financièrement ou en temps l'organisme, on se rend sur le site web, on va pouvoir avoir l'information pour...
Exactement. Donc, tout ce qui est nos activités de levée de fonds, ils apparaissent là sur la page d'accueil, les petits boutons en haut. On a vraiment rendu ça le plus simple possible pour que les gens aient faire 25 clics pour nous trouver. Nos opportunités de bénévolat sont toujours... on en a toujours de disponibles. Ça, c'est vraiment juste de nous écrire ou nous appeler pour nous parler de nos intérêts. Si on travaille beaucoup avec une plateforme, Simplique, pour pas la nommer, où on affiche nos opportunités de bénévolat. Donc, les gens peuvent aller directement voir c'est quoi nos besoins sporadiques, nos besoins récurrents, et c'est une façon de s'inscrire. Donc, autant pour les gens... je pense aux jeunes qui ont besoin de faire des heures de bénévolat, ça fait partie des fois de leur programme scolaire, autant les gens qui veulent redonner, ben il y a moyen finalement d'aller... eux, c'est vraiment le Tinder du bénévolat. Nous, on est Tinder de la philanthropie de façon globale, et de ce côté-là, ben ça permet de faire l'arrimage entre nos besoins et les personnes qui souhaitent s'engager.
Super. Merci beaucoup, Daniel Lantin. Ça a été très intéressant, très inspirant. La mission de l'organisme est incroyable. J'espère que ça a justement inspiré les gens qui nous écoutent à aller la soutenir en temps ou en argent là, directement sur le site web. Merci à toi pour ton temps. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci, c'était une très belle rencontre. Merci beaucoup.